Patricia Martin, votre invité à présent, Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, hein, ce succès mondial. Le livre avait été traduit en 40 langues, vendu à 10 millions d'exemplaires, dont 800 000 exemplaires en France. Eh bien, nous sommes en ligne avec Yuval Noah Harari à Jérusalem, où il vit à l'occasion donc de la parution de Sapiens, mais cette fois en bande dessinée.
Oui, il faut dire que le projet de cette bande dessinée est un projet français. Chapeau les gars. Yuval Noah Harari, bonjour.
Bonjour.
Avec cette adaptation donc de votre essai en bande dessinée, je dis bien adaptation et pas transposition, vous allez considérablement augmenter votre fan club, des fan clubs auxquels, parmi lesquels on compte Barack Obama, Bill Gates, Mark Zuckerberg, hein, qui vous avait distingué dans son club son club du livre sur Facebook. En France, il y a aussi Hubert Védrine. Et là, pour cette bande dessinée, vous vous êtes relancé dans un travail phénoménal qui apporte forcément quelque chose de nouveau. Qu'apporte-t-il ?
Eh bien, c'est une expérience sur la façon de raconter l'histoire et la science de manière différente. Chaque chapitre et chaque scène, en fait, suit un genre artistique différent. Un chapitre qui traite de la disparition des gros animaux, des grands animaux de la surface de la Terre il y a plus de 10 000 ans, est construit comme un roman policier. Il y a des policiers, détectives Lopez, par exemple, qui traversent le monde pour découvrir qui est le tueur en série responsable de l'élimination de plus de 50% des grands animaux de la Terre, et découvre que c'est nous, c'est Homo sapiens qui l'a fait. Un autre chapitre qui traite de l'apparition des nouvelles religions suit les règles des films de super-héros. Donc, on crée un personnage, Dr. Fiction, qui incarne la capacité des êtres humains à croire des histoires de fiction. En fait, c'est un livre d'histoire conventionnelle, Sapiens, n'est-ce pas ? Mais ici, cette bande dessinée, ce roman graphique, c'était tellement drôle de découvrir l'histoire à travers des genres littéraires différents.
Vous y êtes vous-même représenté, on vous y voit souvent avec des petites lunettes rectangulaires sur le nez, le front un petit peu dégarni. Vous êtes souvent assis dans un gros fauteuil club bleu. C'est la figure même de l'intellectuel, c'est pour bien montrer que vous êtes historien, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Il y a eu beaucoup de débats sur la façon dont je dois apparaître dans ce roman graphique. Mes deux personnes avec qui j'ai collaboré, Daniel et Claude voulaient que je sois dans le livre. Et moi, j'étais pas très à l'aise avec ça. On a fait un compromis. Oui, je vais apparaître, mais pas tout seul. Donc, il y a quelques universitaires, et moi, je ne suis que l'un d'entre eux qui explique les aspects différents de l'histoire humaine. Et c'est pas vraiment moi. C'est un personnage fictif, une adaptation de moi-même. Par exemple, le personnage dans le livre est beaucoup plus grand que je ne le suis. Et fondamentalement, c'est simplement une façon d'essayer de raconter la science à un public beaucoup plus large, d'une façon qui est beaucoup plus attirante et beaucoup plus drôle.
Quand, justement, l'historien s'intéresse à la biologie, au fond, ça fait sauter un peu toutes les cloisons des disciplines. Et est-ce qu'il y a plus de zones grise en biologie qu'en histoire?
Je pense qu'on ne peut pas écrire l'histoire de l'homme humaine sans parler de la biologie, parce que les êtres humains sont des animaux, et tout ce qui se produit dans l'histoire humaine est soumis à la biologie. La biologie en soi-même ne suffit pas. Si vous ne connaissez que la biologie, vous ne pourrez pas expliquer des choses comme l'émergence de la chrétienté ou la Seconde Guerre mondiale. Mais la biologie, c'est la base. Donc à la fois dans le livre, mais aussi de façon plus générale, les historiens et les biologistes devraient être en contact plus étroit pour expliquer l'histoire humaine.
Les humains sont finalement soumis aux mêmes lois que les animaux. Ce qui a tout bouleversé, c'est la révolution de la théorie cognitive. Ça, c'était il y a 70 000 ans. ça a donné les représentations, la façon d'écrire, enfin de représenter l'histoire, les réalités fictives, l'invention des dieux.
La raison pour laquelle nous contrôlons le monde et aucun autre animal, c'est pas les chimpanzés, c'est pas les éléphants, c'est en raison de notre capacité unique à coopérer en grand groupe. Et ça, c'est fondé sur la capacité que nous avons de croire à des histoires fictionnelles. Parce que si vous regardez ce qui se passe dans les coopérations à très grande échelle, que ce soit dans les tribus archaïques, il y a 50 000 années, ou dans les entreprises d'aujourd'hui, ou dans les grandes populations, c'est toujours basé sur un récit fictif. L'exemple le plus évident, c'est la religion. La religion est fondée sur des mythologies, sur des mythes. On ne peut pas convaincre un chimpanzé de se réunir et d'aller se battre contre une autre bande de chimpanzés de l'autre côté de la montagne, en leur promettant que s'ils meurent dans cette bagarre, eh ben, ils iront vers une sorte de paradis de chimpanzés. Aucun chimpanzé n'y croira. C'est une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas coopérer en large groupe. Mais les humains, oui, ils croient à cette histoire. Et c'est pas simplement, ça fait pas simplement partie du royaume de la religion. Ça existe aussi en économie. Nos entreprises sont aussi celles qui racontent des fictions légales, ce que disent les juristes. Et peut-être que l'argent, c'est l'histoire qui est la plus réussie dans le monde, parce que c'est la seule histoire en laquelle tout le monde croit. Tout le monde ne croit pas en Dieu, tout le monde ne croit pas dans les mêmes mythes nationaux, mais tout le monde dans le monde entier croit à l'argent. Et dans la même monnaie, même si ce n'est qu'un récit, ce n'est qu'une fiction, mais ça n'a de valeur que dans notre imagination.
Et vous parliez de chimpanzés tout à l'heure. Ça, c'est une des répliques de la bande dessinée. Tu ne convaincras jamais un chimpanzé de te donner sa banane en lui promettant qu'elle lui sera rendue au centuple, au paradis. Yuval Noah Harari. Les premiers humains ont eu finalement assez peu d'impact sur leur environnement, en tout cas pas plus que par exemple un éléphant. On se dit que c'était le paradis terrestre.
Les premiers êtres humains pendant très longtemps n'avaient quasiment aucun impact sur le reste du système écologique. Les êtres humains sont apparus pour la première fois il y a 2,5 millions ans. Et pendant quasiment toute cette période de 2,5 millions années, il y a eu beaucoup d'espèces humaines, pas simplement Homo sapiens, pas seulement nous, mais ils avaient très très peu d'impact sur le reste de l'écosystème. Et puis, il y a environ 70 000 ans, en raison de cette révolution cognitive, cette capacité de pouvoir raconter des récits, des histoires, une espèce, la nôtre, Homo sapiens, commence à créer cette coopération à très grande échelle. Au lieu de vivre en petits groupes de 20 ou 30 individus, on voit l'apparition de tribus beaucoup plus grandes, et puis de réseaux de commerciaux et d'alliances armées, et ça a donné à nos ancêtres la capacité de couvrir le monde et de pousser à l'extinction toutes les autres espèces humaines comme le Néandertal qui vivait dans d'autres parties du monde et qui ont commencé également à changer de façon fondamentale tout l'écosystème.
Et peut-être que la suite nous dira si Homo Deus évincera Homo Sapiens et que ce surhomme marquera peut-être la fin de l'humanité puisqu'il y aura une suite à Sapiens. Yuval Noah Harari, merci beaucoup.
Thank you very much.
Et merci effectivement Yuval Noah Harari. Sapiens en bande dessinée, donc c'est aux éditions Albin Michel, également avec David Van Der Meulen et Daniel Cazenave pour l'adaptation. Et un grand merci à Michel Zotowski pour la traduction simultanée. Entretien enregistré il y a quelques heures.